tous depuis hier matin. Madame Bernard et puis Monsieur Norito, ainsi que, je ne sais pas, Pascal, tu interviendras ou pas? Tu as des choses à dire? Non? Bon. Alors donc, je propose, Gaspard, on avait dit que qui commençait déjà?
Madame Bernard.
Ah, d'accord. Donc la parole est à Madame Bernard pour sa conclusion de ces deux jours d'université d'été sur les ateliers.
C'est plutôt la conclusion, pas des ateliers, mais la conclusion d'un travail que j'ai fait sur la ville de Berlin. Et donc je vais me permettre de vous énoncer en quelques points ce que peut permettre la participation et aussi les retombées positives de la participation. Alors c'est bien sûr pas une liste exhaustive, mais c'est quelques points que je tiens à dire. Alors la participation des habitants, elle permet d'élargir les points de vue personnels en comprenant les besoins des autres, et donc cela permet de gérer les conflits et de trouver un équilibre entre les différents intérêts, d'organiser de manière collective les intérêts de chacun afin de coproduire de l'intérêt général, de rétablir des équilibres et donc de faciliter le partage de l'espace et de favoriser l'engagement et l'initiative personnelle, mais aussi d'aller vers plus de démocratie locale, et puis aussi de développer les compétences transversales de l'administration, c'est-à-dire que l'habitant, il ne pense pas par thématique, il pense d'une façon en général assez transversale, et puis de répondre de manière très adaptée aux besoins du quartier, ce qui permet d'ailleurs de ménager les fonds publics. L'autre chose, c'est, alors là, ça va peut-être surprendre tout le monde, mais c'est que ça permet de gagner du temps, c'est-à-dire que ça donne une certaine fluidité au projet après, étant donné qu'un certain nombre de conflits, mais aussi d'objectifs qui vont être mieux déterminés, seront faits en amont plutôt que pendant la période opérationnelle. Voilà. Alors, en matière de retombées positives de la participation, il semble donc que il y en a plus d'acceptation du projet et donc une réduction des frais d'entretien. Mais aussi, on a une création des liens et des attaches au quartier. C'est-à-dire que sans vouloir parler d'identité, qui est un mot dont on n'aime pas trop, parce que, bon, mais en fait, il y a donc un développement des attaches. Et puis, il y a aussi une mobilisation des potentiels locaux pour redynamiser le quartier de manière durable. Ensuite, améliore les relations entre l'administration et le citoyen. Alors ça, bien sûr, dans le cadre où la participation a été menée d'une manière professionnelle. Et puis, pour terminer, les retombées positives, c'est que la participation produit de la tolérance. Et donc, elle est, d'une certaine manière, un facteur de citoyenneté. C'est-à-dire que, aussi, devenir un citoyen averti, c'est aussi, et coproduire la ville, c'est aussi une appartenance, c'est aussi dégager donc aussi une certaine appartenance à la ville. Voilà, c'était pour mes points. Et donc maintenant, je vais repasser la parole à monsieur.
C'est à moi, oui.
C'est à toi ?
Oui, si tu veux. Vas-y. Oui. Bon, j'ai participé à 7 ou 8 ateliers, tables rondes, etc. Ce que j'en retiens rapidement, ce qui m'a frappé, c'est le constat que partout où le débat participatif a été instauré en vérité, sans volonté politique ou technocratique de récupération, machiavélique ou opportuniste, il a été positif dans le sens de l'intérêt public. Ici, ce débat participatif, en vérité, a permis de retenir un périmètre d'intervention plus pertinent, là, de faire entendre la voix forte des populations, ailleurs de classer ou tenter de classer une usine remarquable qu'on voulait démolir, etc. Les expériences du carré de soie du projet de rénovation urbaine de Trélazé commune de 12 000 habitants en Maine-et-Loire, où les expériences menées à Plourin-les-Morlaix sous l'égide de Philippe Madec montrent qu'il est possible d'associer fortement les habitants à l'élaboration des projets d'aménagement. L'expérience du Grand Lyon, donc du Carré de Soie, où des robins des villes sont allés convaincre la population précarisée de l'importance de leur participation, corrobore, il me semble, les propos de Marie-Hélène Baquet et Pierre Mahé lors de la table ronde introductive, à savoir que la participation citoyenne, en particulier celle des jeunes, des femmes et des couches populaires, suppose une vraie volonté politique et des moyens donnés à ces citoyens, par exemple, pour leur permettre d'accéder à des outils de contre-expertise dont parlait Madame Baquet, justement, et pour qu'ils soient capables de proposer des projets alternatifs. Cette volonté existe à Villeurbanne, à Voie-en-Velin. Ce qui se passe là me paraît significatif de ce que le débat public peut apporter au débat sur la ville. Là-bas, à la suite du cheminement avec des gens, y compris des gens modestes, par définition non experts, un vice-président de la communauté urbaine chargé de la proximité a été créé, ainsi qu'un médiateur et un comité de suivi participatif, toutes initiatives qui visent à intéresser l'ensemble de la population à l'évolution de son cadre de vie quotidien. Le projet citoyen se heurte à un double effet de fermeture, disait Madame Baquet lors de son intervention liminaire en table ronde, le premier jour. Un double effet de fermeture corporatiste et politique. Rien n'est gagné. Mais il me semble qu'après deux jours de rencontres, de débats, les urbanistes ici présents, dont je ne suis pas, vous le savez, sont, il me semble, un peu plus convaincus de la nécessité du débat citoyen pour l'intelligence des projets, pour gagner du temps et aussi pour s'enrichir de l'apport de tous.
Merci, Gaspard. Donc, je vais demander à M. Métivier de nous faire part de ce... Pardon, M. David Fournier, excusez-moi, j'avais en tête Métivier.
Bien, donc je crois qu'effectivement, on arrive le vendredi soir et après, il y a la conclusion des journées, donc je vais être relativement court. Depuis hier matin, j'ai suivi une partie des travaux de votre université. D'abord, très rapidement, je voulais quand même souligner que l'organisation a été remarquable et je remercie Pascal Liquer et toute son équipe de nous avoir donné des conditions de travail correctes pour ces deux journées. Alors le thème retenu, lorsque j'en ai pris connaissance, m'a paru extrêmement bien choisi et je dois dire que dès l'ouverture, le remarquable exposé, et je ne dis pas ça parce qu'elle est à côté de moi, de Madame Baquet, hier matin, a mis en valeur tout le chemin qui avait été parcouru depuis quelques décennies, mais aussi a posé, c'était sa conclusion, un certain nombre de questions qui me paraissent essentielles pour l'avenir. Et j'espère qu'on aura tous les supports de votre exposé quelque part, parce que franchement, il était très intéressant. Alors sur la question les deux questions qui nous étaient bossées dans la table ronde, les perspectives pour les démarches participatives en urbanisme, et puis les évolutions du métier de l'urbanisme, j'ai personnellement, au regard de tout ce que j'ai entendu dans ces deux jours, deux éléments de réflexion pour l'avenir. Alors, personnellement, je n'ai aucun doute, ni existentiel, ni d'un autre ordre, sur l'avenir des démarches participatives. Je pense qu'elles se développeront et que très rapidement, elles devront se généraliser. Le contexte s'y prête, les mentalités mûrissent et la demande sociale est de plus en plus forte autour de cela. On voit bien qu'aujourd'hui, après en avoir longuement parlé, le développement durable devient un mode d'approche concret et réel dans les projets. Pour faire quand même rappeler ce qui se passe autour de cette université, parce qu'il y a encore des choses qui se passent autour de l'université, je voulais simplement dire que le Grenelle de l'environnement, qui est actuellement en plein cours de travaux, a dans ses 6 groupes de travail un groupe sur la gouvernance. C'est pas anecdotique, et je pense que de ces travaux ressortiront un certain nombre de propositions qui viendront enrichir toutes les réflexions et tous les dispositifs qui existent actuellement. Alors, dans le cadre de toutes ces évolutions, ce processus en cours, il reste quand même des points sensibles. Et dans la table ronde d'hier matin, la question du positionnement de la concertation a été plusieurs fois abordée. Un élu a d'ailleurs dit que, pour ce qui concernait sa collectivité, le mode, le niveau et les attentes de la concertation pouvaient être différents suivant les projets. C'était le représentant de Nantes Métropole. Pour ma part, je partage assez fortement cet avis, mais ça emporte un certain nombre de conséquences. En particulier, une des conséquences essentielles, c'est que si on veut être cohérent, ça veut dire que le maître d'ouvrage, l'initiateur du projet, doit dès le départ, dans la consultation qu'il adresse aux professionnels que vous êtes, être très clair, à la fois sur ce qu'il attend au titre des prestations techniques, mais aussi ce qu'il attend au titre de la concertation qu'il souhaite engager et du niveau de concertation qu'il souhaite avoir dans le cadre du projet dans lequel il se lance. Ça veut dire très clairement que dans les cahiers des charges, des consultations, il faudrait voir apparaître très rapidement de la part de la maîtrise d'ouvrage, la prise en considération de ces éléments et dès le départ, des choix faits très clairs de manière à ce que vous-même, professionnel, puissiez les prendre en charge et proposer derrière des modes d'action. Alors, mon deuxième élément de réflexion suite à ces journées, c'est que si l'inscription de la concertation dans les processus de projet est réelle, elle nécessite de réanalyser en profondeur toute notre conception de l'étude. En particulier, j'ai vécu, mais un certain nombre d'entre nous ont vécu depuis des dizaines d'années, sur un mode de réalisation des études relativement linéaire. Le diagnostic, les enjeux, les objectifs, les propositions, et puis le tout étant parfait, bien réalisé, bien bouclé, on faisait un petit neurose autour et puis on avait très bien fait notre travail. Notre compétence, elle était là-dedans. Si effectivement on évolue vers des processus qui sont beaucoup plus itératifs, réactifs, qui font appel, certes, à de la production de réflexion, mais aussi à de l'interaction avec des acteurs. On a parlé de contre-expertise, on a parlé de partage de savoir, on a parlé de tas de choses, c'est-à-dire que la compétence se partage de plus en plus. C'est la fin de la linéarité. C'est qu'on accepte à tout moment de dialoguer, d'être remis en cause. Et derrière, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'effectivement, tout ce qui concerne l'acquisition de connaissances, de savoir, acquisition de compétences, doit changer. Alors, ça fait référence au processus de formation, mais ça fait référence aussi au processus de travail, et ça veut dire aussi, pour le monde des urbanismes, de s'ouvrir totalement à des tas d'autres spécialités qu'on ne maîtrise pas forcément et qu'on ne maîtrisera peut-être jamais, mais qui sont absolument nécessaires dans les processus de conception des projets aujourd'hui et pour l'avenir. Voilà. Merci.
Merci beaucoup. Je vais donc demander aussi à Mme Baquet maintenant de nous faire part de ses réflexions après ces deux journées.
Bien, tout d'abord, j'étais très heureuse de participer à ces travaux et d'entendre donc un certain nombre d'expériences. Alors, ce que j'en retiens très, très rapidement, c'est que, eh bien, on voit quand même que de nombreuses expériences participatives existent aujourd'hui et que de plus en plus les urbanistes, les professionnels de l'urbain intègrent la dimension participative. Donc, il me semble qu'on ne peut que constater qu'il y a là un vrai mouvement et en prendre acte. Alors, un mouvement qui renvoie à des expériences très, très diversifiées. On l'a vu à travers les ateliers, à des échelles de projets, à des objets très, très divers, à des publics aussi très, très divers, mais qui restent quand même très souvent ciblés, en tout cas dans les quelques expériences que j'ai pu, enfin, dont j'ai pu entendre des comptes rendus. C'est plus souvent des associations, des habitants professionnels, et avec une vraie difficulté à élargir. Mais bon, cette difficulté, on la connaît bien, et elle n'est pas que du champ de l'urbanisme. Mais il me semble qu'au-delà de ce qui se dégage, au-delà de cette diversité, c'est vraiment qu'il y a un mouvement là qui me semble incontournable, qui conduit progressivement à des modifications des pratiques. Et ce que j'ai entendu dans les différents témoignages, les différentes analyses qui ont été les vôtres, c'est quand même le constat en même temps qu'il y a une efficacité de la participation. En particulier donc dans la prise en compte de la valeur d'usage, dans l'acceptabilité, ça a été un des termes utilisés du projet. Mais bien sûr avec des limites, des procédures qui restent quand même encore très souvent bricolées, même si on observe un vrai effort d'invention fait par les professionnels. On reste quand même très souvent encore plus dans l'information que dans la co-production. Et puis surtout, il me semble qu'on est loin encore. Alors on avance, et cette université, à mon avis, est un des moyens d'avancer. On est loin d'une réelle évaluation, d'une part des procédures en tant que telles, d'une mise à plat des procédures, et d'autre part de leurs effets, alors de leurs effets concrets sur le projet, mais aussi de leurs effets sur les métiers, et de leurs effets à terme, parce qu'à mon avis, c'est un des objectifs, sur la transformation des institutions. Donc il me semble que de ce point de vue, vous avez ouvert une porte et qu'il faudrait sans doute encore aller beaucoup plus loin, et pour ça, se confronter aussi à d'autres points de vue. Alors j'ai assisté l'an dernier, au mois de décembre, à l'Assemblée des conseils de quartier qui était organisée par l'ADELS, où j'ai pu entendre parler d'opérations dont j'ai entendu parler dans les ateliers d'hier et d'aujourd'hui, mais d'un autre point de vue qui était celui des habitants et parfois celui des élus. Et il me semble qu'aujourd'hui, pour aller plus loin sur ces démarches de participation, sur leurs effets, sur la construction de vraies démarches, eh bien, il faudrait vraiment s'ouvrir à ces acteurs discuter avec eux des effets concrets de ces opérations. Et puis, dernier point, il me semble qu'il y a là aussi tout un objet de travail commun entre professionnels et chercheurs. Moi, participer à cette université a été un vrai apport pour moi. Il me semble qu'il y a une dynamique de dialogue à poursuivre et à approfondir. Et voilà, je voulais terminer là-dessus.
Bien. Alors écoutez, avant que nous fassions les interventions un peu finales, je vais demander à Agnès Vin si elle peut venir aussi nous rejoindre à la tribune. Vous pouvez rester, on va pas, je crois que l'heure est suffisamment avancée pour que nous essayions de terminer vers 16h30. Gaspard, on avait dit comme un peu Pascal, pour que chacun puisse reprendre ses trains et ses voitures et avions. Donc, avant de passer la parole à Agnès Vins, qui donc représente le directeur général de la JUSC, qui va donc nous donner un peu la parole de l'État. Moi, je voulais effectivement, avant de clôturer ces 12e Liberté d'été du CFDU sur le thème de faire ensemble la ville et les territoires et du conflit d'intelligence collective, faire part un peu de quelques enseignements, quelques idées que moi j'ai pu un peu récolter. Et puis faire part un peu de l'état du CFDU, et puis parler pour conclure un peu des prochaines rencontres, avant donc de donner la parole à Agnès. Donc, tout d'abord, moi, je n'ai pas assisté à toutes les universités d'été, mais je crois que celle-ci a été particulièrement riche et particulièrement, effectivement, tout le monde a l'air très content de ce qui s'est passé. Et on a d'abord, je crois, eu la chance d'être sur Nantes avec un terrain de jeu, si je puis dire, extrêmement intéressant par rapport à tous les thèmes qui nous concernent en tant que professionnels de l'urbanisme. C'est vrai qu'autour de l'intelligence collective, la participation des habitats si on élargit à nos problèmes de gestion des échelles et des territoires, aussi bien les échelles de temps que les échelles spatiales, l'exemple de l'île de Nantes et des visites nous ont permis de bien appréhender effectivement ce que c'est concrètement dans une ville qui est impressionnante par le nombre de grues et que l'on voit dans l'agglomération nantaise. Là, effectivement, on sent bien le poids d'une échelle du temps de 5 à 25 ans minimum pour traiter l'ensemble des problèmes qu'il y a à traiter, et l'échelle spatiale de ce qui se passe à Nantes qui nous permet de regarder depuis le détail du micro au macro. Donc c'était un très bon choix d'être à Nantes, et je remercierai encore tout à l'heure l'équipe qui s'occupait de l'université d'été, et comme vraiment le site était très bien choisi. D'autre part, effectivement, sur le thème de la participation, on était un certain nombre d'être un peu sceptiques en se disant c'est un peu rabattu, etc. Est-ce que c'est... Bon, ben, je remercie encore une fois d'avoir eu le courage de monter sur ce thème, car effectivement, ce thème reprend beaucoup d'actualité. Et de manière générale, on en tire quand même le fait qu'il faut savoir changer de culture et changer de pratique et accepter le conflit. Et donc tous les participants semblent assez unanimes à ce sujet. Et il en ressort quand même assez bien, et encore Mme Baquet l'a dit hier matin, c'est sûr que le débat public avance, mais il avance quand même lentement. Quand même. Parce que quand on se rappelle Bologne 72, Pavie, Advocacy Planning et autres, on voit bien quand même que même si là, c'est reparti de manière assez, assez forte, il y a quand même eu un peu une période de glaciation sur la participation active des citoyens. Et qu'il ressort aussi de tout ce que j'entendais pendant ces deux jours qu'il y a besoin de règles claires qui doivent être posées tant par les élus que pour les experts. Parce que ça, je crois que c'est assez clairement, assez fréquemment demandé. En particulier, que les expertises soient bien faites par des gens différents de ceux qui ont mené les études ou les débats, et qu'effectivement, il y a une clarification des règles du jeu et du rôle de chacun qui est absolument indispensable, et que l'on clarifie ce qui est participation, de consultation ou d'information. Et là, ça veut dire quand même pour nous, alors là, je prends ma casquette vraiment sérieusement de président du CFDU, ça veut dire quand même qu'il y a des nouveaux métiers qui apparaissent, qu'on n'a pas forcément travailler dans le détail au niveau des pratiques professionnelles, mais c'est vrai que des urbanistes peuvent se mettre à la communication et des communicants se mettre à l'urbanisme. Il y a là des rôles quand même assez nouveaux qui peuvent permettre d'élargir un peu cette problématique des métiers, tant auprès des citoyens qu'auprès des élus. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que nous maîtrisons les techniques. Nous n'avons jamais eu autant de moyens technologiques qu'on en a actuellement. Enfin, je ne sais pas ce qu'on aura demain, mais entre la représentation visuelle, graphique, les images, Internet, tout ce qu'on peut imaginer, on n'a jamais disposé d'autant de matériel et relativement simple à manier. Je veux dire, quand on se rappelle comment les premières vidéos étaient faites au niveau des chercheurs sur les pratiques des habitants, je veux dire, on avait des grosses caméras, des vassards et tout. Bon, il y a aujourd'hui un appareillage technique qui est extraordinaire de maîtrise et de simplicité. En revanche, là où il y a un énorme travail à faire, c'est sur les méthodes, c'est sur les process et sur ce changement de culture. Je crois qu'assez tout le monde est assez d'accord qu'il y a un véritable effort à faire en termes de changement de culture. Et je prenais l'exemple sur Nancy en parlant avec Eleanor Hoffman. C'est vrai qu'il y a vraisemblablement quand même de gros efforts à faire sur la culture du partagé du projet, sur la gestion du conflit, sur la participation, que ce ne soit pas piège, et que nous avons un champ effectivement encore ouvert sur ce sujet. Et donc, une fois de plus, je voudrais remercier l'équipe de Logo d'avoir bien choisi ce thème. Bon, deuxièmement, je voudrais faire un peu brièvement un bilan du CFDU depuis un an, puisque c'est la tradition lors des clôtures d'été. Tout d'abord, je voudrais remercier Alain Cluzet qui était parmi nous, je ne sais pas s'il est parti, mais il était parmi nous depuis hier soir, pour le travail qu'il a fait jusqu'en février, là donc où il va passer le témoin. Et le bilan du CDE depuis un an, c'est essentiellement quand même celui d'Alain et celui de l'équipe actuelle, qui ont publié le projet pour la France urbaine, qui ont publié la plaquette que vous avez tous dû avoir sur le CFDU, Rassemblement des dynamiques nationales et régionales. Et je remercie tous ceux qui ont participé au travail de ces plaquettes et qui les ont permis de les sortir. Et je voudrais en profiter pour rappeler un peu les priorités que nous sommes fixées en conseil d'administration et en bureau pour l'année à venir. Première priorité, il ne faut pas oublier qu'il faut que nous développions les régions. Il y a encore des trous dans les associations régionales. Il faut que nous développions parce que c'est dans les régions que le travail se fera au niveau des professionnels, dans les échanges et autres. Et on voit bien qu'il y a des régions plus dynamiques que d'autres. Il faut s'en inspirer. Et donc en particulier, Jean Pialoux, le vice-président chargé d'animation, a du pain sur la planche. Il faut qu'on l'aide. Développer le CFDU dans les régions, développer les familles aussi nationales, et en concertation avec l'OPQ, parce que le combat est le même, plus le CFDU sera fort, plus l'OPQ sera fort, et vice-versa. Et avec le Canizares, nous sommes parfaitement en phase sur l'action militante que chacun d'entre nous doit avoir, pour que très rapidement on puisse passer à un millier de membres, aussi bien au CFDU qu'à l'OPQ, c'est peut-être ambitieux, c'est-à-dire doubler, ça ne sera pas sous 6 mois, mais il faut absolument que la dynamique se poursuive, et là je crois que depuis un an, Louis me disait qu'on a quand même pratiquement augmenté de 20%, je crois, à peu près le nombre de qualifiés, et je pense qu'il faut continuer cette dynamique, donc si effectivement à partir de 500, on en fait 20% de plus l'année prochaine, ou 25%, peut-être qu'on arrivera assez vite aux 1000. Donc pourquoi ? Ce n'est pas une question corporatiste. C'est qu'on a absolument besoin, dans les problèmes aujourd'hui de qualité urbaine, de qualité de la production intellectuelle, de rapport aux élus, de tous les enjeux qu'il y a, qu'il y ait un minimum de garantie de qualité dans nos professions, et on est 5-6 000 professionnels de tous âges et de tout mode d'exercice, et il faut absolument que, face à l'ouverture européenne, enfin l'ouverture, plus qu'à l'ouverture, à l'approche européenne, il faut qu'on puisse afficher effectivement ce niveau de qualification, qui ne veut pas dire effectivement non plus la compétence automatiquement, mais un niveau de qualification. Et c'est un problème d'identité, c'est un problème de reconnaissance, et j'aurais aussi insisté sur le deuxième objectif que nous sommes fixés, c'est-à-dire l'aspect de la valorisation de la matière grise. Il y en a assez de voir des PLU à 3 000 euros, il y en a assez de voir des études sous-payées, d'autres trop payées, j'ai un exemple précis que je ne vais pas mettre sur la table, où il y a des disparités qui ne sont pas acceptables, et aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, il faut que les prestations intellectuelles et la matière grise soient reconnues à leur juste niveau, et soient enfin respectées, et que, on parle de participation des habitants, ben oui, mais là aussi, il y a un respect aussi dans les prestations que nous devons avoir. Et qu'il faut absolument que nous battions pour qu'il n'y ait plus ces disparités aussi fortes. Parce que s'imaginer que de faire le PLU d'une ville de 2000 habitants, ça vaut 4000 euros, c'est scandaleux, quoi. Je veux dire, c'est la vie de beaucoup de gens et l'avenir de beaucoup de nos villes. Donc ce combat est important. Ce n'est pas un combat corporatiste. On voit bien, si on n'a pas de chercheurs, on n'aura pas d'idées, on n'aura pas de renouvellement de nos pratiques. Et donc, ça, c'est très important. Et donc, il y a une troisième priorité qui est liée à tout cela, c'est la formation. Il faut absolument que le rapport Frébault-Pouillet ne soit pas lettre morte. Et nous allons relancer les ministres concernés sur le travail, et en particulier avec l'apéro, puisque nous allons préparer une convention entre l'apéro et le CFDU et le PQ, justement sur tous les thèmes de travail sur la formation. Et donc ça, c'est une troisième priorité qui est établie. Et puis, je voudrais terminer par un autre point important, qui est le Grenelle de l'environnement. Alors, il y a toute une opération qui est lancée. Je crois qu'aujourd'hui, vu les conditions dans lesquelles ça a été lancé, nous allons parler avec Agnès Vince et avec la DGUHC. Ce qui est important, c'est qu'on donne une contribution, effectivement, que les urbanistes puissent faire entendre leur voix sur l'apport que nous pouvons, nous apportons, nous donnons quant au développement durable et quant à toutes les questions environnementales. Et que, effectivement, ça passe par des villes mieux organisées, plus de proximité, plus économes. Et donc, nous, ce n'est pas notre rôle d'aller nous occuper forcément du réchauffement climatique directement ou de la sécurité alimentaire ou des OGM. Mais en revanche, des villes, des conditions de vie meilleures et plus durables et plus équitables participent à cette lutte sur l'environnement. Donc, Anne Perret va coordonner les contributions, mais tout le monde peut parfaitement nous envoyer ses contributions. Nous avons aussi comme base le projet pour la France urbaine dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, à partir de ce travail et d'autres contributions, nous souhaitons pouvoir, vers la fin septembre, faire parvenir une contribution spécifique des urbanistes du CFDU à toute opération du Grenelle de l'environnement. Et donc, je vous remercie par avance. Mais je crois qu'il faut que nous essayons de dire que peuvent apporter les urbanistes et que peut apporter la démarche urbanistique sur ces questions de l'environnement. Et sinon, il y a d'autres thèmes que nous allons travailler cette année, que ce soit les problèmes de mobilité entre les modes d'exercice, que ce soit le problème des jeunes diplômés et de leur insertion professionnelle, les questions des stages dont vous avez besoin au cours de vos scolarités. Et puis, il y a aussi un autre point qui est peut-être un petit peu corporatiste, si je puis dire, c'est qu'il faut absolument qu'on essaie, dans les jurys de concours et dans tous les jurys, des urbanistes qualifiés soient membres des jurys pour qu'effectivement, nous ayons un minimum de garantie de qualité et de compétence dans les choix des prestataires dans les collectivités locales. Donc, je remercie tous les membres du conseil d'administration et du bureau du CFDU qui font confiance depuis quelques mois, et en particulier par rapport à tous ceux que j'ai déjà cités, Jean Pialou, Wayne Perret, c'est Anne Garou, notre secrétaire général, Jacques Bedu, Dominique Bonini, et puis Joël Raquel, notre permanente à Toulouse. Et puisque j'en suis au remerciement, je voudrais pour le colloque alors remercier particulièrement Pascal Liquière de l'énorme travail qui a été fait par Logo. Mais je sais qu'il n'était pas seul. Il y avait Jean-Luc Doucet, qui malheureusement n'a pas pu être là pour des questions de santé, et auquel j'envoie notre salut. On lui fera passer un message. Et toute l'équipe de Logo, du CFDU, et de Laurent, des CAUE, de Nantes Métropole, et qui l'ont aidé. Et puis tous les partenaires qui nous ont aidés financièrement et techniquement, la ville de Nantes, la ville de Saint-Nazaire, la Carène, la communauté de Nantes Métropole, Laurent, la Samoa, CAUE, l'Université de Nantes, où nous sommes, l'Ordre des architectes, le Conseil général, le Conseil régional. J'espère n'avoir pas oublié, ma chère Pascal. Donc sinon, on s'adresse à la Bannière, et la presse et FR3, et tous les animateurs. Et pour terminer, et avant de passer la parole à Agnès Vince, je vais vous parler un peu de la 13e université d'été, donc de 2008, pour laquelle nous n'avons pas encore une décision fixe définitive sur le site. L'Île-de-France est candidate et nous sommes en train de travailler avec eux sur à la fois les thématiques et les lieux, puisque comme c'est une université d'été, il ne faut quand même pas qu'on soit un minimum un peu dans les système festif, donc on va essayer de trouver ce qu'il faut, et d'autre part qu'on affine les thématiques, et au cas où ça ne serait pas possible sur l'Île-de-France l'année prochaine, nous avons des jokers éventuels, dont Bordeaux-Lyon, qui ne sont pas forcément prêts, mais qui pourraient se substituer à l'Île-de-France. Donc d'ici 2 mois, vous aurez toutes les informations sur la prochaine université d'été en termes de date et de sujet. Donc je vous remercie et je vais passer la parole à Agnès Vince au nom de la DGUHC.
Pour la 12e année consécutive, donc mesdames, messieurs les présidents, mesdames, messieurs, Cette université d'été s'impose comme un rendez-vous important pour les professionnels de la ville et des territoires. En tant que représentante du ministère, c'est-à-dire du ministre d'État, plus exactement, que vous aviez invité, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durable, je tiens à saluer les efforts des organisateurs de cette rencontre, et plus particulièrement Francis Cuyer, président du Conseil français des urbanistes, de Pascale Liquière, présidente de l'Association des urbanistes du Grand Ouest. Alors, vous avez choisi opportunément d'interroger l'avenir des démarches de concertation et de participation dans la fabrication de la ville et des territoires, après plus d'un quart de siècle de mise en pratique en France et à l'étranger. Le thème des démarches participatives est en effet singulièrement d'actualité, alors même que des stratégies de développement urbain doivent être élaborées à la hauteur des défis qui s'imposent à nous en faveur du développement et de l'aménagement durable. Dans ce contexte critique, donc faire ensemble la ville et les territoires signifie avant toute chose convaincre les acteurs de la ville et des territoires d'œuvrer ensemble pour la coproduction d'un espace public respectueux de l'environnement et favorisant l'équilibre social. Maîtrise de l'étalement urbain, promotion d'une densité acceptée en tissu périurbain, accroissement de l'usage des transports collectifs, autant d'objectifs qu'il nous appartient de mettre en œuvre ensemble. Le titre de votre rencontre, « Faire ensemble la ville et les territoires », et le contenu de vos débats invitent à interroger les liens entre trois grandes catégories d'acteurs, le public, les professionnels et les acteurs institutionnels. En ce qui concerne le public, il a été beaucoup question de la participation des citoyens et du rôle de l'habitant urbaniste. Depuis quelques décennies, l'information, la consultation, la participation des habitants se sont développées, ont été favorisées par un cadre réglementaire qui renforce progressivement le réflexe de consultation et qui donne des outils pour la consultation. Études d'impact, enquêtes publiques, mise en place d'outils permanents de participation comme les conseils de quartier, les conseils de développement dans les agglomérations. Des dispositifs ont été mis en place ou renforcés par des lois approuvées dans les 15 dernières années. Je citerai simplement pour les dernières, la loi Barnier en 1995, SRU 2001, puis plus récemment, démocratie de proximité en 2002. On a eu des exemples ce matin qui ont été présentés sur ce qu'offre ce cadre législatif. Il y a un mouvement de fond, une attente des citoyens que vous avez su démontrer au cours de vos débats, que les pouvoirs publics s'attachent à prendre en compte. Ces aspirations sont reprises aujourd'hui par l'Union européenne, notamment à travers la charte de Leipzig sur la ville européenne durable, signée en mai 2007. Celle-ci préconise le renforcement de la concertation aux différentes échelles d'intervention sur la ville et sur les territoires. Il reste que la participation croissante de l'habitant urbaniste au sein de projets participatifs aux enjeux de plus en plus complexes peut entraîner la gestion de conflits d'intérêts mais aussi d'usages, comme nous l'avons vu à l'occasion des différents exemples. Et ce, dans un pays, le nôtre, qui, contrairement à l'Allemagne dont il a été question ce matin, ne se caractérise peut-être pas par une grande culture du débat raisonné. La construction de l'intelligence collective reste un chantier d'actualité qui relève aussi du domaine de l'éducation et de la formation et qui, pour reprendre les termes de la charte de Leipzig, doit faire l'objet d'une politique d'innovation active visant à encourager le dialogue social, interculturel et démocratique. Deuxième grande catégorie d'acteurs, après l'habitant, les professionnels. Des professionnels appelés auprès des responsables politiques pour les amener à orchestrer la participation et la communication, à associer les partenaires des projets, à trouver des solutions aux conflits d'intérêts, mais surtout des professionnels invités à concevoir et à défendre un projet, une vision de la ville et des territoires qui aille dans le sens de la qualité du cadre de vie et fondée sur le respect des grands équilibres sociaux et environnementaux. Notre ministère, et particulièrement la DGUHC, est attaché à promouvoir la qualité, la visibilité, la reconnaissance des professionnels de l'urbanisme et des territoires. La formation initiale et continue joue un rôle important dans cette perspective. En effet, comme Francis Coulier l'a appelé de ses voeux, le rapport de Jean Frébeau et Bernard Pouillet, publié en 2006, énonce de façon inédite la richesse de l'offre de formation supérieure en France, sa richesse de par la diversité des types de formation, reflétant la richesse aussi et la diversité de ce qu'ils appellent les figures professionnelles de l'urbaniste, ainsi que la force de la culture commune à l'ensemble de ces figures professionnelles, tout autant que le socle commun qu'ils appellent de leurs vœux pour les formations. Que l'on pense aux figures de l'économiste urbaniste, au juriste urbaniste, au paysagiste urbaniste, à l'ingénieur urbaniste, à l'architecte urbaniste, au sociologue urbaniste, au géographe urbaniste, et pardonnez-moi, j'en oublie sûrement. Ce qu'appellent de leurs vœux les auteurs Jean Frébeau et Bernard Pouillet, c'est en particulier le développement d'un échange permanent et institutionnalisé entre les formateurs et les acteurs professionnels, qui permettent de renforcer la lisibilité de l'offre au plan national et régional, et ainsi favoriser les échanges. Nous saisirons le fil rouge de l'aménagement et du développement durable avec les partenaires et notamment les ministères concernés, ce qu'on souhaiterait être une cartographie nationale et régionale de l'offre de formation, mettant en évidence ce que proposent les cursus de formation initiale et continue organisés par les établissements universitaires, les grandes écoles d'ingénieurs et de commerce, les écoles de sciences politiques, les écoles nationales d'architecture, de paysage, et j'en oublie. Donc c'est un chantier que nous allons amorcer à la suite du rapport Frébeau, qui se déploiera dans un travail, comme je l'ai dit, interministériel, et nous ferons toute sa place au CFDU dans cette démarche. Dans un autre registre visant les professionnels, le palmarès des jeunes urbanistes, organisé pour la deuxième fois cette année par le ministère et dont le prix sera décerné cet automne, vise à promouvoir les parcours et démarches de jeunes professionnels capables d'une réflexion théorique sur leurs pratiques et porteurs d'approches innovantes. C'est ainsi l'occasion de valoriser les positionnements diversifiés, intégrés à la maîtrise d'ouvrage ou au cœur de la conception urbaine, mais aussi rattachés aux études amont travaillant pour le secteur public et privé. Bien sûr, le Grand Prix de l'urbanisme, à une autre échelle, va dans le même sens. J'en profite bien sûr pour rappeler que Francis Cuyer a été lauréat du Grand Prix en 2007 et le féliciter avec beaucoup de plaisir pour ce prix et son engagement en faveur d'un urbanisme de qualité. Enfin, pour poursuivre la déclinaison des grandes catégories de ceux qui doivent agir ensemble, après avoir cité le public et les professionnels, citons bien évidemment les collectivités territoriales et locales, qui sont des acteurs de premier plan dans la transformation des villes et des territoires. Et enfin, parmi les acteurs institutionnels, mentionnons aussi, dans ce faire ensemble, l'État et les services déconcentrés qui jouent un rôle et qui auront une place peut-être rénovée, notamment dans le cadre de la révision générale des politiques publiques qui s'engage actuellement. Je tiens simplement à souligner l'apport que les directions régionales de l'équipement ont dans cette construction, notamment par ce qui leur est demandé aujourd'hui, c'est de décliner leur action publique selon les besoins et les particularités des territoires. Et nous attachons un prix particulier dans la discussion avec ces directions régionales sur l'ouverture de ces services au milieu professionnel, notamment en renforçant déjà les liens existants avec les agences d'urbanisme, également avec les CAUE. La capacité des services déconcentrés de l'État à conjuguer leurs compétences internes urbanistiques, techniques, juridiques et financières doivent permettre une implication plus lisible de l'État pour la mise en œuvre aux côtés des autres acteurs de la ville et des territoires, des politiques publiques œuvrant ainsi à ce projet du faire ensemble. Aujourd'hui, la révision générale des politiques publiques lancée cet été par le gouvernement va sans doute resserrer les priorités afin de rendre plus claires et efficaces les interventions de l'État et son articulation avec les autres acteurs de se faire ensemble. Enfin, celles-ci auront aussi apporté le programme d'action qui sera retenu suite au Grenelle de l'environnement, organisé par notre ministère à la demande du président de la République et qui doit aboutir en octobre 2007 à un plan d'action de mesures concrètes. Là encore, le souci de participation et de concertation prévaut. Les groupes de travail se réunissent sur les transports, l'aménagement, la construction, l'habitat et l'énergie, associant l'État, les collectivités territoriales, les syndicats, les entreprises et les associations. Je sais que les représentants des professionnels de l'urbanisme souhaitent pouvoir être entendus dans ce cadre. Leurs propositions et leurs apports dans le débat public ont toujours été précieux et capables de mettre en avant avec conviction les préoccupations de qualité urbaine. Ainsi, une contribution du CFDU me semble tout à fait opportune et souhaitable. Merci.
Merci Agnès Vas de nous avoir apporté ce témoignage de soutien et d'amitié de la part de l'État. Et donc, je vous remercie de votre participation, de votre attention, et je vous souhaite un bon retour, et j'espère à l'année prochaine, comme dit l'autre. Merci.